Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'actu juridique et contemporaine. Aujourd'hui, nous allons traiter la question de la GPA, ou gestation pour autrui, ce qui désigne le fait pour une femme, appelée mère porteuse, de porter un enfant pour un autre ou un couple, via une procréation médicalement assistée. Ce procédé est souvent utilisé par des personnes ne pouvant pas avoir d'enfant naturellement, ou par celles qui ne souhaitent pas porter elles-mêmes. En France, la GPA est interdite, mais légale dans plusieurs autres pays, ce qui crée de nombreux débats juridiques et éthiques. Peut-on envisager une législation équilibrée qui protège les droits des parents, des mères porteuses et des enfants? D'abord, le cadre juridique varie beaucoup selon les pays. Aux États-Unis, par exemple, il n'existe pas de loi fédérale unique sur la GPA. Chaque État décide, certains l'autorisent avec un encadrement, d'autres l'interdisent. La GPA gestationnelle, où la mère porteuse n'a pas de lien biologique avec l'enfant, est la plus répandue. C'est celle qui limite les conflits juridiques, car la mère porteuse ne détient pas de droit sur l'enfant. Certains États interdisent toute compensation, comme l'État de Washington, où les contrats rémunérés sont nuls, sauf remboursement des frais médicaux ou juridiques, conformément au Revised Code of Washington, articles 26.26.230 et 26.26.240. D'autres États, comme la Californie, favorisent les droits des parents d'intention, permettant par exemple un Prebis Order qui établit leur filiation avant la naissance, simplifiant ainsi les démarches légales. En Inde, la GPA commerciale était longtemps peu réglementée, ce qui a conduit à des abus importants, notamment l'exploitation des femmes en situation précaire. Le gouvernement a dû intervenir, restreignant d'abord la pratique aux couples mariés, indiens, avant d'interdire totalement la GPA commerciale depuis janvier 2022. Cette loi vise à protéger les mères porteuses de la pression financière et à empêcher un marché des enfants. En France, la GPA est formellement interdite. L'article 16-7 du Code civil dispose que « toute convention portant sur la procréation ou les gestations pour le compte d'autrui est nulle ». Cette nullité signifie qu'aucun contrat de GPA ne peut être reconnu par la justice, empêchant ainsi tout recours légal si la mère porteuse décide de garder l'enfant. Cette interdiction est justifiée par l'article 16-1 du Code civil, qui affirme que « le corps humain est inviolable, il ne peut faire l'objet d'un droit patrimonial ». Ainsi, la loi protège la dignité humaine en interdisant que le corps soit utilisé comme une marchandise. L'article 227-12 du Code pénal sanctionne également la GPA, punissant de prison et d'amende ceux qui organisent ou facilitent la pratique, ou les parents qui y recourent. Pourtant, malgré cette interdiction, des Français ont recours à la GPA à l'étranger, ce qui décrée des difficultés juridiques à leur retour. Pendant longtemps, la France refusait de reconnaître la filiation des enfants nés par GPA hors de ses frontières. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné cette position en 2014 dans l'affaire Meneson contre France, au motif que ce refus violait le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Depuis, la jurisprudence française a évolué. En 2015, la Cour de cassation a accepté la transcription partielle de l'acte de naissance pour le parent biologique. En 2017, elle a admis l'adoption simple par le parent d'intention. Plus récemment, en novembre 2024, la transcription complète des actes de naissance des enfants nés par GPA à l'étranger est devenue possible grâce à l'article 509 du Code de procédure civile. Les opposants à la législation invoquent principalement la protection du corps humain et la prévention de l'exploitation. La marchandisation du corps, notamment de l'utérus, est prohibée par l'article 16-5 du Code civil, qui dit que « les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles ». La GPA commerciale risque donc de transformer le corps des femmes en simple objet, contraire à la dignité humaine consacrée par l'article 16. Par ailleurs, il existe un risque réel d'exploitation des femmes vulnérables, contraintes par des pressions économiques à porter un enfant. La grossesse elle-même peut générer un lien affectif difficile à rompre pour la mère porteuse, ce qui soulève des questions psychologiques et éthiques importantes. A l'inverse, les partisans d'une législation encadrée mettent en avant la nécessité de protéger les droits des familles modernes, incluant les couples homosexuels et les personnes seules, à la lumière de l'évolution des mentalités et des avancées scientifiques. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le respect de la vie privée et familiale justifie une reconnaissance des liens parentaux. la loi bioéthique de 2021, qui a élargi l'accès à la procréation médicalement assistée, illustre cette adaptation aux droits, aux réalités sociales et scientifiques. Réglementer la GPA pourrait éviter les dérives actuelles liées au recours à l'étranger, protéger les mères porteuses, garantir la santé et la filiation des enfants, et assurer un cadre juridique clair. Enfin, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être au cœur de la réflexion. L'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant révèle que tout cadre légal doit garantir à l'enfant sécurité, identité et reconnaissance pleine et entière, sans discrimination. Après avoir vu les bases juridiques et les enjeux éthiques, intéressons-nous aux exemples concrets de régulation dans certains pays. Par exemple, nous allons voir le Canada. Puis aux pistes possibles pour un cadre législatif adapté en France. Donc au Canada, c'est souvent considéré comme un modèle équilibré. Là-bas, la GPA elle est légale, mais si strictement encadrée. Le principe fondamental est celui de l'altruisme. La mère porteuse ne peut recevoir aucune forme de rémunération, si ce n'est le remboursement de dépenses raisonnables et justifiées. Donc par exemple les frais médicaux, les pertes de salaire en cas de complications, ou encore les frais liés à la maternité, comme certains transports pour les rendez-vous médicaux. Depuis 2020, le gouvernement canadien a même renforcé ce cadre, en exigeant des parents d'intention qu'ils conservent toutes les preuves des remboursements effectués. Ce système vise à éviter toute dérive commerciale, ce qui est renforcé par l'interdiction de la publicité et de tout intermédiaire rémunéré, sous peine de 10 ans de prison et une lourde amende. Une autre particularité canadienne est l'obligation pour la mère porteuse de renoncer à ses droits parentaux dès la naissance de l'enfant. Cela garantit une filiation claire, sans risque de conflit. Néanmoins, cette législation, si elle protège efficacement les femmes contre l'exploitation, est aussi critiquée pour sa rigidité. Le refus de toute rémunération limite fortement le nombre de femmes prêtes à s'engager dans cette démarche, poussant certains parents vers des solutions internationales, notamment les États-Unis, où la GPA commerciale est autorisée dans certains États. Alors, comment pourrait-on imaginer un cadre juridique en France ? Il serait envisageable d'adopter un modèle strictement encadré, calqué sur ce qui se fait au Canada, en posant des conditions précises d'éligibilité. Par exemple, la GPA pourrait être réservée aux couples français stables, sans antécédent judiciaire et exclusivement destinée à ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants pour des raisons médicales. Le caractère altruiste serait impératif, excluant toute forme de rémunération autre que le remboursement des frais médicaux, conformément au principe fondamental du droit français qui interdit la marchandisation du corps humain. Des critères protecteurs pourraient également être instaurés pour la mère porteuse. Elle devrait être majeure, sans tutelle, avoir un ou plusieurs enfants, bénéficier d'un délai de réflexion obligatoire, ainsi que d'un suivi médical et psychologique tout au long du processus. Un délai de rétractation après l'accouchement pourrait être prévu, à l'image du dispositif de l'accouchement sous X, afin de permettre à la mère porteuse de revenir sur son engagement si elle le souhaite. Un contrôle rigoureux par une autorité compétente et un contrat encadré garantirait la sécurité juridique de toutes les parties. Malgré les réticences, avec l'évolution des mentalités et de la science, cela peut nous laisser penser que dans l'avenir, la GPA serait légalisée. Bien qu'elle serait certainement très encadrée et ne répondrait pas totalement aux attentes sociétales, avec trop peu de mères porteuses pour trop de couples qui veulent avoir un enfant et qui ne peuvent biologiquement pas, il faudrait continuer à veiller à ce que ni les mères porteuses ni les enfants ne deviennent des objets d'un commerce et que la GPA, si elle est autorisée, soit réellement au service de la solidarité et du respect humain. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de la GPA ? Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce podcast. À bientôt dans un nouveau podcast.